affinités électives. Une émission proposée par Canal Academy.
Bienvenue sur Canal Academy. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un écrivain de la belle époque, Henri de Régnier, reçu à l'Académie française en 1912. C'est une figure du mouvement symboliste qui a écrit des poèmes, des contes et des romans particulièrement admirés en son temps et qui suscite aujourd'hui un regain d'intérêt. Il a aussi laissé des milliers de notes personnelles. Elles n'étaient pas destinées à la publication et c'est bien pour cette raison qu'elles nous intéressent. Un grand projet d'édition numérique de ce corpus est en cours. Il permet de rentrer dans l'intimité de l'auteur, c'est le projet Encre. Nous allons en parler avec son coordinateur Bernard Rukomowski, maître de conférences à l'Université de Grenoble-Alpes, et de Françoise Bérard, directrice de la bibliothèque de l'Institut de France, qui conserve une partie de ses textes. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors Henri de Régnier était un écrivain très important dans son temps, ensuite il est un peu tombé dans l'oubli, beaucoup de nos contemporains ignorent parfois jusqu'à son nom, et pourtant depuis quelques années il bénéficie d'un renouveau éditorial et critique dans les milieux littéraires. Pourquoi ce poète mérite-t-il qu'on s'y intéresse aujourd'hui ?
Oui, vous avez raison de rappeler que Régnier est un auteur oublié, un auteur aujourd'hui considéré comme mineur, qui bénéficie néanmoins, vous l'avez rappelé aussi, d'un regain d'intérêt depuis, en gros, le début des années 2000. Un regain d'intérêt qui peut s'expliquer d'ailleurs par un certain nombre d'entreprises éditoriales qui ont contribué à sa redécouverte et d'une certaine manière, la nôtre, celle dont nous allons parler, s'inscrit dans ce mouvement hein, de redécouverte. Bon, Régnier fut de son vivant un auteur de premier plan. C'est aussi ce que l'on a oublié. Sa notoriété fut tout à fait comparable à celle d'un Gide ou d'un Valéry. Peut surprendre aujourd'hui. Ce fut d'abord un poète, cet auteur d'une œuvre à la fois abondante et protéiforme. Abondante, une quarantaine de volumes publiés de son vivant. Protéiforme parce qu'il a touché à de nombreux gens. Vous avez évoqué les poèmes, vous avez évoqué les romans et les contes. Aussi publié de très nombreux essais critiques sur la poésie. Il a laissé de très nombreux récits de voyages ou souvenirs de voyages dont nous parlerons peut-être, et en particulier de très très beaux textes sur Venise, puisque Régnier fut un très grand vénitien. Mais donc, ce fut d'abord un poète, effectivement, et il fut dans les années 1880-90, l'une des figures de proue de cette génération que l'on a appelée symboliste. Ne me demandez pas de définir le symbolisme, puisque la plupart des historiens de la littérature vous diront que c'est impossible. Disons, pour aller très vite, que le symbolisme se constitue en réaction avec un excès de rationalisme, avec de réaction au naturalisme aussi, au réalisme plus largement, et que le symbolisme est très orienté vers le songe. C'est quelque chose qui est très très marqué et marquant chez Régnier. L'un de ses recueils est intitulé « Tel qu'en songe », hein, un titre d'une certaine manière qui est à lui
tout
seul.
Un programme.
Tout un programme, voilà, un titre programmatique. Mais Régnier fut également l'un des romanciers les plus en vue de la Belle Époque. Alors, ce qu'il a véritablement installé dans ce statut de romancier, c'est la publication en 1900 de La double maîtresse, qui fait partie de ces romans d'Henri de Régnier que l'on appelle les romans costumés parce qu'ils se déroulent dans l'Ancien Régime. Ils ont pour cadre, pour décor l'Ancien Régime, c'est-à-dire cet âge classique avec lequel Régnier se sent de très grandes affinités. Il écrit souvent qu'il aurait voulu vivre au XVIIe siècle, assister aux premières lectures des Maximes de La Rochefoucauld, par exemple, ou des Caractères de la Bruyère. Et il y a chez Régnier, évidemment, une nostalgie du classicisme qui est aussi l'un de ses traits dominants. Au moment où il s'empare de ce genre romanesque, Régnier est déjà bien identifié dans le domaine de la poésie. Dès 1885, il a donc publié Lendemain, son tout premier recueil poétique qui... D'emblée identifié comme caractéristique de ce qui fut à l'époque une avant-garde. Hein, Régnier apparaît aujourd'hui comme un poète daté, mais la poésie symboliste fut reçue à l'époque comme une avant-garde. Une avant-garde située dans le sillage notamment de Mallarmé, hein, qui fut évidemment un personnage extrêmement important pour Régnier, puisque dès 86, Régnier fréquente le salon de Mallarmé, ce qu'on appelle les mardis de Mallarmé. Et dans les cahiers dont nous parlerons dans un instant, nous trouvons de très nombreuses traces de cette fréquentation et de ces mardis donc de Mallarmé. Voilà quelques raisons qui méritent qu'on s'intéresse aujourd'hui à cet auteur qui est certes inégal, mais qui a laissé des comptes particulièrement intéressants. Les contes de Régnier, les contes à soi-même par exemple, la canne de jaspe sont des recueils particulièrement intéressants. Et ces romans, j'ai cité La double maîtresse, mais du côté des romans que l'on appellera romans modernes par opposition aux romans costumés, c'est-à-dire des romans qui ne se déroulent pas dans ce décor d'Ancien Régime, il y a également des textes extrêmement intéressants. On peut penser par exemple au Divertissement provincial ou au Passé vivant. Voilà, ça fait déjà beaucoup, et cela sans parler même, puisque nous allons en parler, de ces fameux cahier qu'il a laissé et qu'il ne pensait pas effectivement nous laisser, puisque, comme vous l'avez rappelé, il ne les destinait pas à la publication.
Oui, effectivement, tout au long de cette carrière, il a écrit des notes personnelles de 1887 à 1936. C'est un large corpus qui restait en réalité largement méconnu, et récemment de multiples initiatives ont vu le jour. Pour les rendre plus accessibles, il y a une première édition papier et vous vous occupez d'une édition numérique exhaustive, et notamment avec la bibliothèque de l'Institut de France qui en conserve quelques cahiers. Françoise Bérard, est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet ?
Très volontiers. Donc nous avons en effet engagé depuis 2017 un partenariat avec l'équipe donc éditoriale du projet Encre, c'est-à-dire avec l'UMR Littéar de l'Université de Grenoble, Alpes, qui pilote le projet. Ce partenariat donc a fait l'objet d'une convention signée bien sûr par le chancelier de l'Institut et le président de l'université en décembre 2018. Alors comment avons-nous ces carnets ? Alors, pour le rappeler très rapidement en quelques mots, la bibliothèque de l'Institut de France est la bibliothèque commune aux cinq académies. C'est une bibliothèque de recherche, c'est aussi une bibliothèque patrimoniale qui a pour mission de conserver la mémoire donc des membres de l'Institut. Elle a des collections d'une richesse assez exceptionnelle qui vont de l'Antiquité à nos jours. Et elle a eu la chance de s'enrichir essentiellement par des dons qui ont été très nombreux au cours des 19e et 20e siècles. Et parmi ces dons, nous avons donc ce fonds, c'est un fonds des familles Hérédia et Régnier, donné par Marie de Hérédia, donc épouse d'Henri de Régnier, et seconde fille du poète José María de Heredia, le poète parnassien qui fut lui aussi membre de l'Académie française. Marie Drénier a fait deux donations de documents biographiques, manuscrits littéraires et surtout d'une correspondance abondante ainsi donc que du journal de son mari. D'abord en 1937, après la mort d'Henri Drénier, pour respecter sa volonté, elle a fait don à la bibliothèque de la correspondance reçue par son mari et de papiers des familles Régnier et Heredia, ce qui représente un volume physique d'une quarantaine de dossiers. Elle est morte en 1963 et par son testament, donc Marie Drénier avait institué l'Académie française comme légataire universelle, mais avait prévu des legs particuliers à plusieurs institutions, la Bibliothèque de l'Arsenal, la Bibliothèque nationale et donc la Bibliothèque de l'Institut, à laquelle elle destinait en fait le complément de ce qu'elle avait déjà offert précédemment. Et le testament mentionne ainsi des lettres ou papiers de famille, ainsi que des autographes et manuscrits non reliés. C'est au total une trentaine de cotes. Et il s'y trouve donc une partie des cahiers, puisque ces cahiers n'étaient pas reliés. Ce sont donc quatre carnets qui sont entrés en fait, que la bibliothèque a reliés postérieurement, qui sont conservés à la bibliothèque de l'Institut. Les sept autres cahiers faisant partie du legs à la Bibliothèque nationale de France, puisqu'ils étaient reliés, ce qui est une distinction assez particulière qui fait, comme M. Roukomowski en parlera certainement, voilà, qu'il y a des ruptures chronologiques un peu étonnantes. Donc le legs comporte, comme je le disais, également une correspondance très abondante qui peut aller de la simple carte, notamment pour des candidats à l'Académie française souhaitant se faire recommander, mais qui vont jusqu'à de véritables correspondances littéraires et amicales, comme avec Stéphane Mallarmé, comme M. Roukomowski a cité, mais aussi, par exemple, Paul Valéry ou André Gide. Alors, nous avons aussi quelques brouillons et manuscrits d'œuvres ou de discours, et donc le journal, et quelques autres petits carnets, carnets de voyage notamment, ou carnets vénitiens, qui font l'objet du programme Encre.
Alors justement, ce programme Encre représente environ 5000 pages qui appartiennent, on l'a bien compris, à des natures diverses. Il y a ce journal, il y a des carnets de voyage, il y a des notes prises sur des calepins divers. Est-ce qu'on peut considérer toutes ces notes comme un corpus très éclaté ou comme une sorte d'œuvre à part entière ?
En réalité, Encre, c'est l'acronyme de Édition numérique des cahiers d'Henri Drénier. Donc, le programme Encre stricto sensu, c'est un projet d'édition numérique des cahiers. La question de leur cohérence, de leur unité, j'y reviendrai dans un instant, mais on peut partir du principe que Drénier, en reclassant les différents éléments de son journal, s'en faisait néanmoins l'idée d'une œuvre qui se tient, d'une œuvre à part entière. Bon. Ce à quoi vous faites allusion, donc je mentionne cela très rapidement, par ailleurs, à savoir les carnets de voyage que nous avons effectivement également fait numériser avec d'autres documents. Ce sont des carnets qui, eux aussi, hein, carnets de voyage ou carnets de notes d'ailleurs, hein, puisque bon, ce sont aussi des carnets qui, comme le journal, se trouvent dispersés à la fois entre la Bibliothèque nationale de France et la Bibliothèque de l'Institut, et qui sont à mettre effectivement en relation avec les cahiers, avec le journal, dans la mesure où ils ont fait office pour Régnier de journal portatif. Autrement dit, ces carnets se substituaient aux cahiers à chaque fois qu'il allait en voyage. Et très souvent d'ailleurs, il recopie dans ses cahiers ce qu'il a noté d'abord dans ses carnets à chaque fois qu'il est de retour. Bon, il ne recopie pas toujours exactement à l'identique, c'est-à-dire qu'il y a parfois déjà une première réécriture. Voilà. Donc si vous voulez, les carnets de voyage, c'est un second cercle, hein. Voilà, c'est un complément que nous avons fait numériser également, mais qui n'entre pas directement dans le périmètre strict du projet Encre. Voilà.
La véritable trame, c'est ce...
C'est ce journal, donc, ce journal. Qui, comme vous l'avez rappelé... 87-36, ce sont les dates que vous avez données et qui sont effectivement les bonnes, à ceci près que les trois premiers cahiers sont perdus. Donc si, par bonheur, nous pouvons toujours rêver, nous les retrouvons un jour, la date de 87 sera peut-être à revoir, puisque il semble bien que Régnier ait commencé son journal plutôt aux alentours de 85 ou 86, mais nous ne le savons pas exactement puisque les trois premiers cahiers sont perdus. Voilà.
Alors, qui trouve-t-on dans ce journal au niveau du contenu?
Oui, alors...
Que raconte-t-il?
Question qui nous amène directement à la question de la cohérence, à la question de l'unité, puisque c'est effectivement un ensemble à l'unité problématique, dans la mesure où on y trouve, je dirais pas de tout, mais en tout cas beaucoup de choses, c'est-à-dire à la fois... des matériaux qui sont constitutifs de ce que l'on peut attendre d'un journal. À ceci près que Régnier n'entre jamais beaucoup, n'entre jamais très avant dans ce que l'on appelle l'intime, ou en tout cas l'idée que l'on s'en fait habituellement. Il n'évoque par exemple jamais ses déboires sentimentaux, sa vie sentimentale extrêmement... malheureuse, hein, puisque son mariage avec Marie de Hérédia, donc devenue Marie de Régnier, fut un mariage dont on dit qu'il ne fut peut-être jamais consommé, qui fut en tout cas un mariage extrêmement malheureux, Marie de Régnier ayant multiplié notoirement les infidélités. On y trouve donc des éléments de journal intime, mais pas vraiment tout à fait intime. On y trouve ce que Régnier appelle lui-même la chronique de ses dîners en ville, c'est-à-dire, au fond, une documentation très intéressante sur la vie culturelle et mondaine de l'époque, et qui a servi, par exemple, à l'historienne Anne-Martin-Fugier pour... nourrir de façon, dans des proportions très importantes, son étude sur les salons de la Troisième République. On y trouve le récit, j'y faisais allusion tout à l'heure, de ses visites à Mallarmé tous les mardis. Et là aussi, donc, c'est un document extraordinaire. Et puis, ce journal fait également fonction de véritable laboratoire de l'œuvre. On y trouve... ce qu'on pourrait appeler un cahier d'esquisses, c'est-à-dire qu'on y trouve
des projets d'écriture.
Voilà, des projets d'écriture. Donc ça veut dire que, si vous voulez, ces cahiers, alors que l'on appelle tantôt cahier, tantôt journal, justement parce qu'il y a une sorte d'interrogation sur le statut même de ce texte, peuvent se donner à lire à la fois comme une œuvre à part entière, une œuvre un peu composite, mais une œuvre à part entière, et en même temps comme le laboratoire de l'œuvre publiée de son vivant, parce qu'on y trouve effectivement des projets d'écriture, alors des projets qui peuvent être de simples esquisses, de simples idées, ou des projets beaucoup plus développés, vous voyez, hein. Et puis, alors je complète, je termine, on y trouve aussi beaucoup, et ça c'est très intéressant, je n'en ai pas encore parlé, de maximes, d'aphorismes, d'anecdotes, en pièces détachées, à la manière des moralistes de ces moralistes du XVIIe siècle que Régnier affectionnait, dont il fut un lecteur assidu. Et c'est tellement vrai que Régnier a tiré de ses cahiers en 1925 d'abord, puis en 1927, la matière de deux recueils d'aphorismes. Le premier publié de façon totalement confidentielle, puisque tiré à 130 exemplaires sous le titre « Choses et autres », et le second, paru dans une collection semi-bibliophilique sous ce titre assez énigmatique de « Donc », voilà, et qui fait de Régnier, à côté du romancier, à côté du poète, à côté du conteur, à côté du critique, également, à sa manière singulière, un moraliste. Voilà.
Ce que nous ne pouvons pas voir ailleurs. Est-ce qu'il y a certains portraits de personnages un peu savoureux?
Ah oui.
Qui apprécie-t-il? Qui, au contraire, n'était peut-être pas dans ses amis ou dans ses faveurs?
Oui. Alors, encore une fois, hein, quand on parle de documents absolument extrêmement précieux, gisements d'informations sur la vie culturelle et mondaine et littéraire notamment de son temps, c'est parce qu'effectivement ce journal est émaillé de portraits, d'anecdotes, et notamment de portraits extrêmement savoureux, dont certains ne sont pas sans rappeler le style cruel d'un La Bruyère, hein, c'est-à-dire des portraits qui vous exécutent la victime désignée. Alors, ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est que dans certains cas, on peut constater l'écart entre ce que Régnier dit de façon évidemment tout à fait sincère, puisqu'il ne pense n'avoir d'autres lecteurs que lui-même dans ses cahiers, et le portrait beaucoup plus polissé, voire dans certains cas beaucoup moins chargé qu'il en fait dans ses publications. Ce que Régnier a également donné donc des portraits littéraires, comme je le disais tout à l'heure. Voilà. Régnier est très sévère à l'égard des Goncourt, par exemple. Il est très, très sévère à l'égard de Barrès. Il a, en revanche, évidemment, de grandes admirations pour Baudelaire, pour Hugo, pour Mallarmé, bien sûr, on n'y reviendra pas. Pour Jules Renard, dont il relit vers la fin de sa vie, le journal, puisqu'il s'intéresse finalement à ce moment-là à d'autres journaux d'écrivains. Pour Stendhal, bien entendu, aussi. Voilà, donc on trouve effectivement, pour répondre à votre question, et pour répondre positivement, on trouve en effet de très nombreux portraits, et des portraits savoureux, pour certains extrêmement cruels, des portraits qui nous en disent long évidemment sur ce que furent les goûts littéraires de Régnier, mais des portraits qui sont également très éclairants pour une histoire littéraire de cet entre-deux siècles finalement.
En réalité, ces textes nous donnent une matière pour mieux connaître Régnier, mais également pour mieux connaître son temps.
Tout à fait. C'est la raison pour laquelle un projet comme le projet Encre n'est pas du tout un projet qui s'adresserait exclusivement aux spécialistes de Régnier, ou régnériens, comme on dit dans le jargon, ou même aux spécialistes du mouvement symboliste, du courant symboliste, mais parfaitement intéressé, par exemple, les historiens. Et pas forcément les historiens de la littérature, les historiens de la mondanité. J'ai cité le cas de Martin Fugier, qui est une historienne. Bon, vous évoquiez tout à l'heure le précédent, c'est-à-dire l'édition papier parue en 2002, alors qui est une édition qui est certes lacunaire, certes en partie fautif, mais qui n'en a pas moins l'immense mérite d'exister et d'avoir contribué à exhumer ces cahiers, et donc d'avoir contribué à ce mouvement de redécouverte. Or, cette édition, il se trouve que nous la devons à un tandem, puisqu'elle a d'abord été donc entreprise par un historien de la littérature, qui est David Niederauer, un Américain, qui, pour des raisons personnelles, a été amené à renoncer, enfin à ne pas mener à bien le projet. Et le projet a été ensuite repris par François Broche, et François Broche est un historien. Et d'ailleurs, l'annotation qu'il propose dans l'édition papier est essentiellement une annotation d'historien. Alors certes, pour les littéraires que nous sommes, c'est un peu frustrant, mais l'intérêt historique des cahiers est attesté.
Et alors justement, ces cahiers, comment allez-vous les traiter dans ce projet Encre ?
Alors, les cahiers ont déjà été traités. En effet, ils ont été numérisés. De même que deux carnets de voyage et deux carnets vénitiens. Et ils sont désormais en ligne sur notre bibliothèque numérique, puisque nous avons donc ouvert l'année dernière, en mars 2020 très précisément, donc une bibliothèque numérique qui porte le nom de Minerva, en référence à à Minerve, divinité tutélaire de l'Institut. Et les carnets donc, ont été mis en ligne aux côtés d'autres fonds prestigieux dans cette bibliothèque numérique ces tout derniers mois pour justement pouvoir être présentés lors du colloque. Donc ils sont consultables librement. Cette numérisation, cette mise en ligne ont l'avantage à la fois de préserver les originaux puisque nous les communiquerons moins aux chercheurs et aussi justement de donner accès à un public plus large qui ne fréquente pas forcément la bibliothèque. Et par ailleurs, à terme, l'intérêt éditorial est évidemment que ces images numériques se trouvent sur le site Encre en regard de la transcription. C'est donc une mise en valeur du fond en même temps qu'un outil scientifique.
Est-ce que vous pouvez un peu nous parler des carnets vénitiens ? Parce que Henri de Régnier était vraiment un grand amoureux de Venise. Est-ce qu'ils ont beaucoup de pages ? Est-ce qu'il peut y avoir des dessins, par exemple, ou des esquisses, ils dessinaient parfois, je crois.
Alors, une communication a été faite à l'occasion du récent colloque que nous avons organisé, qui aurait dû normalement se tenir physiquement tout entier à l'Institut, mais qui ne l'a été que partiellement pour les raisons que l'on sait, en raison des circonstances que l'on sait. Donc il y a bien un dessin, mais c'est une exception. Ces carnets vénitiens, c'est un cas intéressant qui permet de compléter ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les cahiers sont pour partie un cahier d'esquisse. Ils ne sont pas que cela, il serait totalement réducteur de les ramener à cette fonction de brouillon de l'œuvre publiée, totalement dénué de pertinence, mais ils sont entre autres ce laboratoire de l'œuvre publiée, et donc ils sont aussi intéressants pour nous comme éclairage finalement sur la genèse de l'œuvre de Régnier, et même là encore plus largement au-delà des spécialistes de Régnier, pour quiconque s'intéresse au mécanisme de genèse d'une œuvre littéraire, soit Régnier ou quelqu'un d'autre. Bon. Dans le cas des carnets vénitiens, pour revenir à cet exemple, nous avons finalement toute une superposition de strates. C'est-à-dire que vous avez d'un côté, enfin, vous avez en premier lieu, les carnets de voyage auxquels faisait allusion à l'instant Françoise Bérard. Ces deux carnets qui ont été numérisés et qui sont donc émaillés de notes prises par Régnier sur le vif, là pour le coup, puisque c'était des tout petits carnets, donc des supports vraiment portatifs.
Sur le terrain.
Au moment, à l'occasion de ces multiples voyages. Bon. Vous avez ensuite les cahiers, c'est-à-dire le journal, dans lesquels, je le disais tout à l'heure, il recopie tout en les retravaillant déjà, les notes prises sur le vif. Donc les cahiers, dans ce cas de figure, ne constituent pas une écriture de premier jet, mais déjà un état retravaillé. Bon. Et puis, vous avez ensuite une troisième strate, ce sont ces carnets vénitiens qui sont, sous forme de carnet, un assemblage de matériaux destinés à l'élaboration de quoi ? De la quatrième strate, c'est-à-dire de ce chef-d'œuvre véritablement que Régnier nous a laissé sur Venise, hein, l'Altana ou la vie vénitienne, qui est le grand, je ne sais pas, le seul livre de Régnier sur Venise, puisqu'il nous a laissé aussi les esquisses vénitiennes, mais c'est vraiment son grand livre sur Venise. Voilà. Donc vous voyez, c'est très intéressant, puisque vous avez quatre strates successives.
Dans quel autre lieu a-t-il voyagé ?
Alors, vous avez les escales en Méditerranée, donc, qui retracent tout son périple autour de la Méditerranée, de l'Italie à la Grèce, notamment. Vous avez donc son voyage aux États-Unis, hein, qu'il retrace également. Ce sont pour l'essentiel, et si ma mémoire est bonne, ses principaux récits de voyage.
Voilà. Nous allons revenir au projet Encre, qui est en cours. Vous espérez mettre en ligne le site internet d'ici quelques mois, et vous allez proposer deux lectures différentes de ces textes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ils consistent ?
Oui, alors en fait, Bon, si vous voulez, les cahiers, nous les avons découverts, enfin, je les ai découverts, comme beaucoup d'autres chercheurs, grâce à cette édition papier dont je... Puis, comme beaucoup de chercheurs, à un moment donné, on essaie d'être sérieux, on va voir les manuscrits, on se rend à la bibliothèque de l'Institut.
Les sources.
Et puis, on s'aperçoit, évidemment, on constate que l'édition papier, pour des raisons qui tiennent aux contraintes de l'édition, à des contraintes économiques, etc., ne restituait pas grand-chose de la matérialité de ces manuscrits, du soin que Régnier a mis notamment dans toute la première période, c'est-à-dire jusqu'en 1900, à les organiser véritablement en cahier numéroté avec des pages de titres individuels, etc., etc. Donc, on se rend compte que finalement, l'édition papier ne laisse pas subsister grand-chose de cet objet que sont les cahiers et sur lesquels et qui nous a donc été donné de découvrir donc la bibliothèque de l'Institut et bien sûr aussi au département des manuscrits de la BNF, puisque, comme l'expliquait Françoise Bérard, le journal est également dispersé. Bien. D'où l'idée, d'abord, initiale, de proposer, grâce à l'outil numérique, une édition, une transcription diplomatique ou semi-diplomatique, c'est-à-dire restituant véritablement le texte tel, non seulement qu'il se donne à lire, mais qu'il se donne à voir, c'est-à-dire tel qu'il est disposé, etc. Bon. Et puis très vite, notre réflexion a évolué et nous nous sommes rendus compte que ce parti pris totalement légitime, totalement pertinent, totalement justifié pour un certain public, mais que
il soulevait des
problèmes. Voilà, il soulevait des problèmes de lisibilité, parce que restituer le texte tel qu'il se donne à lire, ça veut dire aussi le restituer avec ses ratures, ça veut dire le restituer avec ses erreurs de ponctuation, avec tout ce qui peut en compliquer la lecture, en affecter la lisibilité. Et que ça est donc à l'encontre d'un autre objectif que Françoise Bérard a rappelé tout à l'heure, objectif de valorisation, objectif qui consiste tout simplement à donner à lire aussi au plus grand nombre. À partir de là, nous nous sommes rendus compte, grâce à nos ingénieurs, que l'un des grands mérites de l'édition numérique, c'est de ne pas nous contraindre à choisir et de nous donner au contraire la possibilité de jouer, pour dire les choses familièrement, sur les deux tableaux. Et donc de proposer en effet deux affichages possibles, soit un affichage diplomatique ou semi-diplomatique qui va restituer très fidèlement le texte au plus près, mais évidemment avec un certain préjudice en termes de lisibilité, et inversement, une transcription, alors que je n'appellerai pas grand public, hein, mais une transcription qui est moins fidèle mais plus lisible qui s'adresse donc au plus grand nombre. Voilà, d'où, si vous voulez, l'idée du double affichage. Alors, notre site ne se réduit pas à cela, puisqu'il y a évidemment aussi toute une annotation critique, un certain nombre d'outils de recherche, un dictionnaire des cahiers, etc. etc. Voilà.
C'est vraiment un projet gigantesque.
C'est un projet gigantesque, beaucoup trop important pour un seul homme ou pour une seule femme. C'est la raison pour laquelle ce qui avait été à l'origine une idée individuelle est devenue un projet collectif et que donc une équipe s'est constituée au sein de l'Université Grenoble-Alpes, qui est une équipe actuellement d'une petite dizaine de personnes. Et c'est un projet pluriannuel qui va sans doute nous emmener jusque aux alentours de 2025. Voilà.
Et peut-être pour conclure, Françoise Bérard, pourquoi est-ce important pour la bibliothèque de l'Institut de se lancer dans ce genre de projet? Vous en avez d'autres de même ampleur actuellement?
Alors, nous en avons en effet plusieurs, dont certains ont déjà été réalisés. Nous avons travaillé avec l'équipe de l'inventaire Condorcet. Nous envisageons d'autres partenariats. Nous en avons un en cours, oui, autour, alors pas de manuscrits cette fois-ci, mais d'une bibliothèque d'imprimés. C'est la bibliothèque de l'écrivain italien Vittorio Alfieri, qui vivait à Paris donc, à la fin du XVIIIe siècle, et dont la bibliothèque est pour partie conservée à la bibliothèque de l'Institut, pour partie également à la bibliothèque de Montpellier. et un projet, là encore, d'édition est en cours et nous avons fait numériser 52 volumes qui contiennent des annotations manuscrites qui sont également très importantes pour la genèse de l'œuvre de cet écrivain. Voilà deux exemples. Et c'est certainement une pratique qui est amenée à se développer encore, puisque nous possédons évidemment un certain nombre de fonds susceptibles d'intéresser des chercheurs, et comme je le disais, cela répond à notre vocation, qui est à la fois de fournir des sources aux travaux des chercheurs et à la fois, ce que permet maintenant la numérisation, de s'adresser à un public plus vaste, et aussi d'ailleurs de reconstituer, comme c'est le cas pour les carnets, virtuellement, des sources qui se sont trouvées à un moment donné séparées alors qu'elles vont ensemble.
Eh bien, un grand merci, Françoise Bérard. Je rappelle que vous êtes directrice de la bibliothèque de l'Institut de France et Bernard Roukomowski, maître de conférence à l'Université de Grenoble-Alpes, qui coordonne le projet Encre. Donc, le projet Encre, vous pourrez avoir accès au cahier, en tout cas au premier cahier d'Henri de Régnier d'ici quelques mois, et l'intégralité des cahiers devrait être mis en ligne d'ici 2025 avec deux lectures, nous l'avons bien compris, ainsi que tout un appareil de notes et d'outils qui vont nous aider à rentrer dans ces écrits d'un écrivain qui mérite d'être redécouvert. Si vous deviez nous laisser une lecture d'Henri de Régnier pour l'été, qu'est-ce que vous nous conseilleriez ?
Oh, pour l'été, c'est l'Altana, Venise.
Eh bien, partons à Venise cet été. Un grand merci à tous les deux. Thank you.